solennellement que les propos racistes, ignominieux, tenus à plusieurs reprises à l'encontre de Christine Taubira, garde des Sceaux, sont intolérables et doivent être dénoncés. Femmes, noires, détenteurs du mystère radialien, manifestement c'est trop pour certains. Ce qui est trop, c'est qu'au-delà de son cas, comme elle a dit elle-même dans son interview au journal Libération le 6 novembre, ces attaques racistes sont une attaque au cœur de la République. C'est la cohésion sociale qui est mise à bas, l'histoire de la nation qui est mise en cause. Madame le ministre, garde des Sceaux, je vous l'ai écrit et je le redis, sur ce sujet, le syndicat de l'avocat de France est vent debout à vos côtés. Monsieur le sénateur maire, son représentant, monsieur le président de la Cour d'appel administrative, monsieur le secrétaire général de la première présidence de la Cour d'appel, monsieur le président du TGI, monsieur le président du tribunal administratif, monsieur le président du conseil des prud'hommes, monsieur le président de l'université, madame la représentante du CNB, monsieur le représentant du maire de Paris, mesdames et messieurs les autres personnalités, chers amis du monde associatif et syndical, monsieur le président de la CE, madame la vice-présidente de l'FNJA, chers confrères, chers amis, mesdames, messieurs. Mes remerciements tout d'abord à la dynamique section du SAP de Lyon, qui, sous la houlette de son président, Franck Hurtel, a vraiment mis le petit pas dans les bras pour nous accueillir dans cette université de Lyon. Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon, nous nous plaçons sous votre protection. Je vous placerai en exergue de ce rapport moral cette citation du philosophe de l'école de Francfort, Théodore Adorno. Nous n'appartenons à ce monde que dans la mesure où nous nous soulevons contre lui. La justice maintenant, disons-nous il y a plus d'un an, à le congrès de Lyon, où nous avions accueilli Madame la garde des Sceaux après une dizaine de 10 ans, et même si Pascal Tabin nous avait prévenu, nous voulons vous dire qu'après avoir passé 10 ans à nous épuiser, à parer le mauvais coup, nous souhaitons vivement pouvoir plus vite mettre notre énergie au profit de la construction du droit et de la justice de notre pays. Nous serons à vos côtés aussi souvent que possible, mais sans complaisance et sans jamais renoncer à nos valeurs et à nos convictions. Et à la suite de vos propos, en retour, vous aviez eu droit à une standing ovation de la grande majorité des congressistes, présents, mais pas plus. Aujourd'hui, vous êtes excusés de ne pas être présente pour des raisons impératives de calendrier, et nous le regrettons. Mais je pense que l'accueil serait plus frais, même si vous pourriez faire valoir que le ministère de la Justice propose et le gouvernement dispose. Aussi, à tout seigneur, tout honneur. Quo usque tandem, Hollanda, pacienza nostra. Jusqu'à quand, camarade président Hollande, abuseras-tu enfin notre patience? Qu'en est-il, 18 mois après le changement intervenu en mai 2012, alors que nous avions à la tête de l'État un président de la République avec un gouvernement de gauche détenant tous les leviers du pouvoir politique, l'Assemblée nationale, le Sénat, la quasi-totalité des régions, la majorité des conseils généraux et la plupart des grandes métropoles, dont cette ville de Lyon. Oui, nous sommes incontestablement déçus et nous vous le disons, alors que tant aurait pu être entrepris déjà et si peu réalisé par rapport aux promesses de la campagne électorale présidentielle. Revenons à vous, Madame la garde des Sceaux. Vous êtes manifestement sincère, car dans le brouhaha populiste entendu jusqu'au sein de votre propre majorité, vous faites savoir que la lutte contre la délinquance ne trouvera jamais de réponse effective de la surenchère répressive. Vous avez certes, dès le 3 septembre 2012, pris une circulaire pour inviter les parquets à ne plus requérir des peines planchées, mais on ne met pas en œuvre une politique pénale plus circulaire. Vous avez eu toutefois une démarche ambitieuse ensuite, en mettant sur pied la conférence de consensus sur la lutte contre la récidive. Et à la suite de ses conclusions rendues publiques le 20 février 2013, le SAF a aussitôt pris un communiqué de soutien aux 12 propositions du jury qui constituent une démarche en totale rupture avec les lois précédentes post-faits divers, marquées par le populisme et fondées sur des concepts pseudo-scientifiques tels que la dangerosité. Je citerai notamment dans ces 12 propositions l'abandon de l'idée que la prison est la seule alternative possible avec la proposition d'une peine de probation, véritable bouleversement philosophique, car il n'y a plus de lien avec l'emprisonnement à la différence du sursis, un financement important de conseils d'insertion et de services de contrôle pour être efficace, l'accent sur la réinsertion, la sortie du champ de la prison de certaines infractions, comme les délits routiers ou la consommation de stupéfiants, la suppression des peines planchers pour rendre au juge son poids d'appréciation, empêcher toute sortie sèche, fabrique de récidivistes, suppression de la peine de sûreté, disposition phare d'une justice sécuritaire, véritable mesure d'exclusion avec création d'une peine indéfinie d'enfermement supplémentaire après l'accomplissement initial de la décision qui est fondée sur des critères dont les experts chargés de la guider reconnaissent eux-mêmes combien elle dépasse les pouvoirs scientifiques. Dans un bel élan, SAF, SM et LDH se sont félicités le 4 mars de la remise en cause de l'efficacité de la peine de prison en termes de prévention de la récidive, de la volonté de concevoir la prison non plus comme une peine de référence, mais comme une peine parmi d'autres, qui attendent beaucoup de la grande loi pénale annoncée par le garde des Sceaux. Cette grande loi pénale, nous l'attendons toujours. Certes, nous sommes conscients des difficultés rencontrées dans notre propre camp, avec la note adressée le 25 juillet par le ministre de l'Intérieur au président de la République, tentant de torpiller votre projet de loi dans ses fondements au regard également des mesures proposées. Et si le 2 septembre, nous avons salué le véritable progrès en matière de politique pénale qui constituait, nous avons aussi estimé qu'il ne rompait pas assez avec la politique populiste conduite ces dernières années. Oui, abrogation des peines planchers et de la révocation automatique des sursis simples. Liberté et responsabilité du juge dans l'individualisation et la proportionnalisation de la réponse pénale. Volonté d'accompagner les détenus en fin de peine constitue indéniablement des avancées. Mais la peine probatoire proposée par la conférence de consensus a fait place à une peine de contrainte pénale et la sémantique a son importance qui reste inscrite à titre de peine de mesure alternative à l'emprisonnement sans trouver pleinement son autonomie face à une véritable réorganisation du droit de la sanction. En outre, qu'elle est marginalisée dans son champ d'application, eu égard au quantum de la peine encourue, 5 ans, l'attitude laissée au JAP, qui était de 2 ans pour les condamnés primaires et d'un an pour les récidivistes, est abaissée de moitié. Sans compter que les moyens budgétaires ne sont pas à la hauteur pour mettre en pratique cette réforme qui se veut ambitieuse, alors que la suppression carcérale atteint son paroxysme, foyer de toutes les violences et facteurs de récidive. Et toujours rien concernant la suppression de la peine de sûreté, du tribunal correctionnel des mineurs et la descendance du parquet. Car le calendrier parlementaire, là aussi le ministre de l'Intérieur, a remporté l'arbitrage, puisque malgré votre volonté d'aller plus vite, cette réforme, jugée pourtant prioritaire, a été renvoyée après les municipales de mars 2014. Et vu, selon de fortes probabilités, le résultat annoncé des élections. Venons-en justement à la surpopulation carcérale, qui atteint des sommets jamais égalés jusqu'ici, avec un taux d'occupation qui chaque mois bat des records, ce qui est paradoxal sous un gouvernement de gauche, même si effectivement il y a un effet mécanique symbolisé à prendre en considération. La prison constitue en effet le pilier de la réponse pénale pour eux, et je m'en tiendrai ici à l'évocation de l'état sanitaire symbolisé par la prison des Baumettes à Marseille. À la suite des recommandations en urgence du contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Delarue, lequel intervient demain au cours de notre table ronde avec Christine Laverge, Donc, au cours de cette recommandation publiée le 6 décembre 2012 au journal officiel, dénoncer l'état déplorable, indigne de la maison d'arrêt des Baumettes, justifiant l'application de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme relative au traitement inhumain et dégradant. Étant rappelé pour cette maison d'arrêt des Baumettes que dès 1991, le Comité européen de prévention de la torture avait déjà relevé le caractère inhumain et dégradant qui concerne des prisons. L'Observatoire international des prisons, au côté duquel sont intervenus le SAP, le CNV et l'Ordre des avocats de Marseille, a engagé une procédure de référé liberté le 11 décembre devant le tribunal administratif de Marseille. Dans cette décision, confirmée en appel par le Conseil d'État le 22 décembre, il constatait l'état d'insalubrité avéré avec obligation de procéder notamment à une opération de dératisation dans les 10 jours et sans astreinte, ce qui a mené l'OIP 4 mois après à déposer un nouveau référé mesure utile avec prononcé d'une astreinte de 3. Dans son communiqué du 7 décembre, la section SAP de Marseille reconnaissait que les constatations du contrôleur général vont bien au-delà de ce que nous soupçonnions et pointer au-delà de la responsabilité des autorités judiciaires, de la hiérarchie de l'administration pénitentiaire, celle des avocats qui n'ont pas pris la juste mesure de la gravité des atteintes quotidiennes portées à la dignité des personnes. Sachons, nous aussi, de temps en temps, balayer dans notre propre compte. Situation marseillaise non isolée, l'État français a nouveau été condamné le 25 avril 2013 par la CEDH, et Canadien contre France, pour ces mêmes conditions humaines et dégradantes. Dans une interview au journal Le Monde du 6 novembre, Isabelle Gorce, qui a pris cet été ses fonctions de directrice de l'administration pénitentiaire, reconnaît que nombre d'établissements des dom-tom sont dans un état de vétusté et de suroccupation massive. À l'arrivée, on peine à percevoir une nouvelle politique en matière pénitentiaire, laquelle s'est de toute façon rapidement interrompue par la nécessité de réorienter l'effort budgétaire vers la sécurisation renforcée des établissements pénitentiaires, après la fameuse évasion spectaculaire de Redouane Faïd de la prison pourtant ultra sécurisée de Séquedin le 13 avril 2013. La prison, c'est l'angle mort de l'état de droit. Je salue à cette occasion les actions engagées avec succès par nos confrères devant les juridictions administratives pour dénoncer ces conditions indignes de détention de leurs clients et la négation de leurs droits les plus élémentaires. Dans la plupart de ses confrères sont membres du SAF, avec le pionnier Étienne Noël du barreau de Rouen et Jacques Debré, notre ami lyonnais, qui continue à lutter courageusement alors que son état général se dégrade de plus en plus. Et que dire du contrôle aux faciès? Proposition numéro 30 du candidat Hollande. Engagement de lutter contre le délit de faciès dans les contrôles d'identité grâce à une procédure respectueuse des citoyens. Il faut tout de même le dire, la mise en place d'un reçu à remettre à l'effort de l'ordre dans des contrôles d'identité est une des premières mesures annoncées par le Premier ministre le 1er juin 2012. Vive opposition aussitôt des syndicats de police et reculade aussitôt du gouvernement. Or, le contrôle d'identité constitue une entrave à la liberté du mouvement lorsqu'il n'est pas justifié par la loi. Il est illégal lorsqu'il est opéré en raison des origines. Les dérives constatées depuis des années dégradent la situation entre la justice et la population. Elles provoquent le sentiment pour les victimes de ces contrôles d'être considérées comme des citoyens de seconde zone. En outre, dans de nombreux cas, ils sont attentatoires à plusieurs libertés et droits fondamentaux. Liberté d'aller et venir, droit à la sûreté, droit à la protection de la vie privée et à la non-discrimination. Le ministre de l'Intérieur dégaine le 19 septembre 2012. Après des discussions et échanges nourris, il me semble qu'il ne faut pas compliquer de manière déraisonnable le travail des policiers et des gendarmes sur le terrain. J'ai du respect pour la sincérité des promoteurs de la délivrance de récépissés à chaque contrôle d'identité. Je maintiendrai le dialogue avec eux. Mais il me semble très difficile de retenir leurs propositions, en définitive, peu développées à l'étranger. Elle serait beaucoup trop bureaucratique et lourde à gérer et porteuse de difficultés juridiques nouvelles en termes de traçabilité des déplacements et de constitution de nouveaux fichiers. Réponse du berger à la bergère du défenseur des droits qui, dans son rapport du 7 octobre 2012, un mois après, conclut justement sur la base des expériences étrangères que la mise en place des récépissés, je cite, entraîne une diminution quantitative des contrôles d'identité et ces contrôles moins nombreux se révèlent par contre beaucoup plus pertinents. Et d'ajouter, la thématique des contrôles d'identité apparaît comme l'expression la plus vive d'une défiance qui, dans certains territoires, s'est installée. Malgré ce, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault se rallie à la position du ministre de l'Intérieur et enterre le projet. Reconnaissons toutefois à la ministre du Garde des Sceaux qu'elle n'en reste pas là. Invitée le 14 mars 2013 par le mouvement des jeunes socialistes, elle se dit favorable à ce récépissé. La responsabilité de la puissance publique est de mettre un terme à une ambiance des inégalités, des injustices, des exclusions, tout en nommant la police républicaine. Rétro-pédalage toutefois, le lendemain du cabinet ministre. Ces déclarations ont été faites dans le feu de la discussion et ne remettent pas en cause les arbitrages du gouvernement. Dur, la solidarité gouvernementale. Aussi, face à l'inertie du pouvoir public, la commission de discrimination du SAF, pilotée par Sylvain Dachaud, sur la base d'une enquête rigoureusement menée à Paris par l'ONG Open Society Justice Initiative, ne faisant d'ailleurs que confirmer une précédente étude du CNRS de 2009, selon laquelle des jeunes noirs ou maghrébins risquent de se faire contrôler 8 et 15 fois plus souvent, respectivement que le reste de la population, est à l'origine d'une procédure collective engagée devant le TGI de Paris en responsabilité pour faute et dommage à terre. L'affaire a été plaidée le 3 juillet 2013 et le jugement vient d'être rendu le 2 octobre. Reprenant l'avis du ministère public, qui bien sûr ne reçoit pas d'instruction écrite, comme s'y engageait le garde des Sceaux, le tribunal a débouté les demandeurs, estimant que la discrimination ne pouvait être établie, car il n'apportait pas la preuve de celle-ci, ni même la preuve du contrôle, ce qui est justement le cœur du problème, car comme l'a rappelé dans sa plaidoirie notre confrère Jérôme Benoît, intervenant en cabinet de Slim et de Jérôme Carcenti, c'est le seul acte de procédure qui ne laisse aucune trace. Et comme les demandeurs critiquaient au travers du contrôle dont ils avaient fait l'objet le régime juridique applicable à ce contrôle d'identité et notamment l'absence de garantie procédurale entourant sa mise en œuvre, qui serait de nature à assurer l'effectivité du respect des droits fondamentaux de la personne humaine, le tribunal dégage en bouche, se défaussant sur le législateur. Cette contestation est en réalité dirigée contre l'œuvre du législateur lui-même. Or, il n'appartient pas aux tribunaux, l'ordre judiciaire, de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'État du fait de l'adoption d'une loi dont les dispositions font l'objet d'une discussion. Fermez-le. Certes, il y a appel. La loi en question n'est pas prête de voir le jour. Le salut viendra peut-être, une fois encore, du défenseur des droits, qui a décidé, lui, à la mi-octobre, de mettre en place un groupe de travail avec pour objectif de se pencher sérieusement sur l'article 78.2 du Code de procédure pénale et de voir si on peut effectivement envisager des procédures davantage encadrées. Et une fois n'est pas coutume, c'est dans le domaine du droit des étrangers que s'expérimentent les pires régressions. Certes, la loi du 31 décembre 2012 a supprimé le délit de séjour irrégulier. Le gouvernement est en toute façon contraint par les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Mais nous attendons toujours la refonte du CESEDA, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour rendre compatible notre législation avec les valeurs de la gauche et le respect des droits fondamentaux. Certes, une concertation a été organisée par le ministre de l'Intérieur sur la réforme de l'asile, mais sans les avocats. Le 20 septembre dernier, amenant notre commission au droit des étrangers à l'interpeller en ces termes. Le droit d'asile, comme son nom l'indique, ne se limite pas à l'hébergement des demandeurs d'asile, mais doit protéger ceux qui craignent avec raison de faire l'objet de persécutions et qui ont dû fuir leur pays. Le droit est en général mis en œuvre devant des juges, avec les auxiliaires de justice, que nous sommes. Or, force est de constater que, pas plus que dans le premier cercle où la CND est représentée, que dans les ateliers, la présence de nos professions nous semble souhaitée. Ni les ordres, ni les syndicats d'avocats, ni l'association ELENA, à la fonction spécifique pourtant, n'ont été invités pour participer à vos travaux. Et de conclure en se tenant à la disposition des ministres, rappelant que l'intervention des avocats est assez constitutionnelle pourtant, avec l'idée de république et de démocratie, et que dans le domaine du droit d'asile, les avocats du SAF peuvent prétendre disposer d'une certaine expertise. Comment ne pas évoquer la question Rome, ce bouc émissaire des temps modernes qui focalise toutes les craintes, tous les fantasmes, alors que la peur des Roms n'est que la peur inavouée de soi. Rappelons que s'applique en droit interne la directive européenne 2004 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et séjourner librement sur les territoires des États membres. Le ministre de l'Intérieur a pris une circulaire du 26 juillet 2012 relative à l'anticipation et l'accompagnement des opérations d'évacuation des campements illicites. Qu'en est-il en pratique? On se contente généralement de déplacer le problème et les chiffres sont là, accablants au ministère de l'Intérieur, puisqu'on se situe dans la continuité des années Sarkozy. D'après la Ligue des droits de l'homme, la première moitié de 2013 a confirmé une recrudescence forcée des bidonvilles. 8365 personnes évacuées de force par les autorités, rasant 65 sites. Mais le plus grave, c'est l'appréciation portée sur eux par Manuel Valls. Pourtant lui-même fils d'immigré, ayant acquis à l'âge de 20 ans la nationalité française. Il commence certes par dire « On ne peut pas tolérer l'opprobre jeté sur toute une communauté. » Mais il conclut « Qui par essence, oui par essence, ne pourrait s'intégrer compte tenu d'un mode de vie extrêmement différent du nôtre. » Mais c'est du racisme ça, tout simplement. Et que dire de la gestion calamiteuse de l'affaire Leonarda? La famille reste au Kosovo, et Leonarda peut revenir, finir son année scolaire en France. Le président Hollande a-t-il entendu parler de l'article 8 de la CEDH, consacrant le respect du droit à la famille et à la vie familiale? Leonarda, qui par essence ne peut s'intégrer, souhaite devenir avocate. Bienvenue au SAF dans tout ça. Comme le regrettait Pierre Desproges, je dirais, il y a environ 18 000 Roms en France, pour 36 000 communes. Ça fait un demi-Rome par commune. Pour en revenir au droit commun des étrangers, ce que nous voulons également dénoncer haut et fort, c'est la justice dans les aéroports. Ainsi que vous l'avez écrit, monsieur l'Intérieur, le 18 juillet 2013, l'ensemble des organisations sensibilisées par ce sujet, ABDE, ANAFE, CIMAD, JISTI, LDH, SAF, SM et USMA. Une fois de plus, le ministre de l'Intérieur prime du ministère de la Justice, puisqu'est annoncé pour décembre l'ouverture d'une salle d'audience construite à grands frais au bord des pistes de l'aéroport de Roissy et jouxtant la ZAPI 3 où sont enfermés les étrangers, où siégeront les juges des libertés et la détention du centre de Louvigny, chargés de statuer sur les demandes de maintien en zone d'attente des étrangers auxquels l'entrée sur le territoire est refusée. De même, on l'écrivait au 2 juillet, dès septembre, l'ouverture d'une salle d'audience située sur le site du centre de rétention de Midi-Lablo, où les GND du tribunal de Meaux statueront sur les demandes de prolongation de rétention d'étrangers que l'administration se dispose d'éloigner de notre territoire. Dès le 17 mai, Madame la Ministre, gardez-vous, votre cabinet a été sollicité à ce sujet, mais cette sollicitation est restée sans réponse. Le 20 juin, la présidente de la CNDH, Christine Lazerge, vous a adressé, ainsi qu'au ministre de l'Intérieur, un courrier faisant valoir que ces projets étaient de nature à porter de graves atteintes au principe du procès équitable, et vous avez connaître son souhait que le gouvernement ne mette pas en place ces salles d'audience. Les dites organisations, nous en dites solennellement, nous ont assuré de ne pas donner suite à ces transferts, Car, Madame la Ministre de la Justice, vous êtes le garante des conditions dans lesquelles la justice est rendue à notre pays, de leur conformité aux principes fondamentaux que tous les justiciables, nantis ou précaires, français ou étrangers, peuvent légitimement revendiquer. Malgré cela, le 14 octobre a bien eu lieu la première audience de l'annexe du TGI de Meaux. Comme l'indique Franck Johannes dans son compte-rendu paru dans Le Monde du 16 octobre, c'est très commode. Les sans-papiers sont maintenus dans le centre de rétention. Un magistrat statue sur leur sort à deux pas de là et ils sont renvoyés dans leur pays grâce à l'aéroport voisin. Ils peuvent même regarder les avions par la fenêtre. Les avocats présents, notamment du SAF, se montent en première ligne. Pour Mylène Stankouli, la justice des étrangers est déjà une justice exceptionnelle. Les délais sont extrêmement brefs, les appels non suspensifs, le juge unique. Pourquoi ne pas ouvrir à ce moment-là des salles d'audience dans les maisons d'arrêt ou les commissariats? Tous les arguments évoqués ont été balayés par les deux juges présents qui se partageaient l'audience. Tous les étrangers ont écopé de 20 jours de rétention supplémentaire. Certes, dans votre communiqué, Madame la Ministre, le 16 octobre, vous indiquez avoir lancé une mission chargée d'apprécier si l'annexe du tribunal de Bobigny, construite à Roissy, est conforme aux exigences européennes. Mais par contre, vous estimez que le centre de rétention du Mini-Lando est en conformité avec la jurisprudence établie. Et cerise sur le gâteau, si l'on peut dire, le décret du 20 juin 2013 relatif aux rétributions d'agis accomplies par les avocats devant la CNDA et les juridictions administratives en matière de contrôle des agents. D'abord la carotte. Les UV, montant unitaire 22,50 € hors taxe, passent de 8 à 16 UV pour l'intervention devant la CNDA et de 6 à 8 UV pour l'intervention d'urgence dans le contentieux des OQTF, lorsque l'étranger est placé en rétention. Et ensuite, le bâton, selon le principe des vases communicants. Les UV passent de 20 à 16, soit une baisse de 25% pour l'intervention dans le tribunal administratif, en formation collégiale, dans le contentieux des OQTF, sans placement en rétention, alors qu'il s'agit d'un contentieux majeur qui constitue la mission principale effectuée par les avocats spécialisés dans la défense des étrangers. Certes, à l'entremise de Didier Liger, en lien avec le cabinet d'Hélène Masse et d'Olivier Coudray, nous avons aussitôt déposé un recours au Conseil d'État. Mais c'est une première. Il s'agit une fois de plus de faire des économies au préjudice des plus faibles, de faire obstacle aux droits des personnes les plus démunies, sans faire rendre ici à la législation. Parlons-en justement de l'accès au droit. L'accès au droit effectif, et depuis la création de notre syndicat, l'un de ses axes majeurs d'intervention, notamment en faveur des plus démunis, qui, par le biais de l'aide juridictionnelle, doivent avoir accès à une défense de qualité. C'était l'objectif du protocole du 18 décembre 2000, assurer la juste rémunération de l'avocat pour qu'il soit en capacité de répondre à toutes les demandes de droit. On sait dans quelles conditions ce protocole n'est jamais entré en vigueur. Au fil du temps, une dégradation du montant d'indemnisation qui nous est alloué est devenue de plus en plus insupportable. Le constat a été mis en évidence à nouveau lors de nos états généraux de l'accès au droit organisés par le CNB sur proposition de Catherine Blond qui sont tenus à Paris le 14 décembre 2012 sous l'égide de Myriam Picot et d'Istamé, membres du SAF, élus ordinaux au CNB, respectivement président et vice-président de la commission accès au droit. À cette occasion, nous avons diffusé un texte rappelant nos positions. Instauration des modalités de calcul de notre rémunération par la fixation de nos taux horaires calculés à partir de notre prestation intellectuelle, avec pour base de calcul le salaire perçu par un magistrat ayant 10 ans d'ancienneté, outre les charges supportées par nos cabinets. Et instauration de grilles standards avec le nombre d'heures de travail moyen par type de procédure. Et tout en rappelant que le financement de l'aide juridictionnelle ressort prioritairement de l'engagement de l'État, création de dispositifs de financement complémentaire pour assurer au minimum un doublement du budget consacré à l'AJ, voire à terme un triplement, en privilégiant pour nous principe de la taxation des actes juridiques soumis au droit d'enregistrement. L'aide juridictionnelle n'est pas une perfusion qui permettrait à certains avocats de survivre. C'est dans une société démocratique une mission de l'État qui doit permettre un égal de tous à la justice. Faut-il rappeler qu'actuellement, pour obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il faut avoir un revenu inférieur à 929 euros par mois, revenu qui se situe en dessous de celui de pauvreté. Et pourtant, le nombre de bénéficiaires ne cesse de croître. La question n'est pas comment faire face à une telle augmentation, mais pourquoi y a-t-il tant de personnes avec des revenus aussi bas, ce qui ne peut que nous interpeller sur le type de société dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ce que Perrine Prodi et moi-même avons rappelé en mai dernier à Mme Hélène Marceau, dans le cadre de la modernisation de l'action publique, a été chargé par le garde des Sceaux de procéder à l'évaluation de la gestion de l'AGI avec un rapport de diagnostic, rapport qui vient enfin d'être rendu public. Il confirme la nécessité d'une remise à plat du système et s'est révélé assez ouvert à l'opposition. Tous les besoins de droit sont loin d'être couverts. Il nous faut aller, nous avocats, dans les zones de droit en jachère, d'où l'intérêt de mise en place de structures conventionnées qui, rappelons-le à ceux qui bondissent et comprenons ce mot, existaient déjà dans le cadre des protocoles article 91 de la loi sur l'AGI. L'avocat, en aucune façon, se deviendrait un fonctionnaire de la situation. Il exerce toujours en libéral, mais se consacre à temps partiel, selon un volume plus ou moins important, à certains contentieux, sous le contrôle des ordres, et c'est justement l'intérêt de l'atelier qui est consacré à ce sujet entre syndicats demain. De faire le point à ce moment-là. Le but, pour nous avocats, est d'occuper des champs de droit qui sont peu ou pas couverts par les avocats, comme les référés d'expulsion, le surendettement, le droit au logement opposable, les copropriétés en difficulté, tout le droit de la sécurité sociale et de la capacité. Et voilà qu'à l'occasion de la rentrée parlementaire, nous prenons connaissance de l'avant-projet de loi de finances 2014. La carotte, c'est la tenue d'engagement par la garde des Sceaux de la suppression de la taxe de 35 euros que devait acquitter tout justiciable, sauf quelques exceptions, désireux d'engager une action en justice, et une légitime augmentation de 1,5% du taux de l'AGI, avec une unité de valeur qui passerait de 22,50 à 22,84 euros, bien loin d'ailleurs de tenir compte de la seule inflation intervenue depuis la présente augmentation en 2007, évaluée à 10,6%. Le bâton, c'est que la mesure de financement compensatoire sera obtenue notamment en supprimant la modulation de l'UV existante actuellement selon un double critère prenant en considération à la fois la taille des barreaux et le nombre de missions qui y effectuées, soit 22,50 € pour le groupe 1 et jusqu'à 25,90 € pour le groupe 10. C'est-à-dire qu'en réalité, à part le groupe 1, on aura une baisse généralisée pouvant aller jusqu'à 11,5% pour le groupe 10. Nous avons été au stade de premier à réagir en prenant dès le 10 septembre un communiqué qui a été rappelé tout à l'heure, baisse sans précédent du montant de l'aide juridictionnelle. La droite n'avait pas osé, la gauche l'a fait, indiquant qu'il s'agissait là d'une atteinte sans précédent au financement de l'AGI, qui constitue une véritable tromperie dans les premières victimes sur les plus démunis, et appelant la profession à engager la mobilisation pour contraindre le gouvernement à revenir sur l'avant-projet de loi de finances. Cet appel à mobilisation sera repris par l'intersyndicale ACE, CNA, FNUJA, SAF le 28 septembre. Grève générale des audiences le 4 octobre, date de l'AG extraordinaire du CND, au cours de laquelle doit intervenir la garde des Sceaux. La mobilisation, bien qu'inégale, a toutefois été suffisamment importante, et le SAF a été élu en hauteur, pour que la garde des Sceaux, lors de sa intervention, rectifie le tir en annonçant le report de la mesure de modulation à 2015 et l'ouverture d'une concertation sur la réforme de l'AGI et la mise en œuvre du financement complémentaire. Du coup, Mme Taubira, qui s'attendait à recevoir une conduite de Grenoble, est repartie sous les applaudissements d'une bonne partie de la salle, mais pas celui du sable, prenant immédiatement un communiqué indiquant « Le mouvement des avocats continuera tant qu'une véritable réforme de juridique ne sera pas effectivement mise en place par le gouvernement. » Compte tenu du nouveau tour de passe-passe, dans le détail duquel je n'entrerai pas, figurant dans l'amendement gouvernemental déposé pour compenser le report de l'allocation, la proposition du SAF, à l'occasion de la journée du 5 novembre, date d'examen de l'Assemblée nationale, a été entérinée par une délibération du CMB, qui a été votée à l'unanimité le 26 octobre. À l'heure où est écrit ce rapport, je ne sais sous quelle forme s'est mise en place ici et là la mobilisation, ni quel a été le résultat du vote de l'amendement qui devait intervenir en séance de nuit. Toujours est-il que par courrier du 30 octobre, la garde des Sceaux a saisi M. Alain Garpira, avocat général honoraire à la Cour de cassation en ces termes. L'aide juridictionnelle constitue pour moi une priorité. L'accès aux juges et la reconnaissance des droits de ceux dont les revenus sont particulièrement bas doivent être assurés par des dispositions juridiques et budgétaires adaptées et pérennes. Elle lui demande donc de s'appuyer comme feuille de route sur le rapport Marceau, de préparer et mettre en œuvre la réforme du système en concertation étroite avec la profession d'avocat, et termine par l'évocation d'un calendrier précis. S'agissant des aspects budgétaires de la réforme, les mesures législatives devraient intervenir avant le 1er janvier 2015. En conséquence, les propositions d'action opérationnelles devront être présentées le 1er mars 2014. Et pour ce qui concerne les autres mesures, les travaux doivent être remis en avril 2014. Madame le garde des Sceaux, acceptons-nous du jour. Ce rapport se veut un rapport moral et non d'activité, de sorte que je ne vais pas balayer tous les champs d'action dans lesquels notre syndicat est impliqué. Et nous y reviendrons bien sûr dans le cadre de notre congrès. Je citerai quand même trois actions intéressantes et importantes. La loi sur le mariage pour tous. Son adoption vous doit beaucoup, effectivement, Madame le ministre. Oui, il faut reconnaître que vous avez assuré à ce point-là. Cette loi est une avancée significative vers l'égalité des droits. En déconnectant le mariage de la filiation, il s'agissait tout simplement d'adapter l'institution matrimoniale à l'ordre social existant, à savoir le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe. L'action de groupe. Vous avez perdu, et nous aussi, l'arbitrage concernant le champ d'application, puisque nous étions tous les deux en faveur d'une action de groupe élargie, alors que le projet de loi actuel, porté par M. Hameau, soit du tel de le restreint au seul droit de la consommation. Sans entrer plus avant dans les détails, nous nous retrouvons ici aussi avec le projet de loi minimaliste. Quant à l'ANI, l'accord national interprofessionnel, qui a entraîné, il faut le reconnaître, des discussions passionnées au sein de notre commission sociale, il induit une réforme profonde des relations du travail, bouleversant durablement les droits individuels et collectifs des salariés et les conditions de règlement des litiges, et ce, il faut le dire, au profit des employeurs. Oui, camarade président Hollande, méditez ces paroles simples et fortes de votre alter ego dans les années 1980, le dirigeant social-démocrate suédois Olof Palme. Le socialisme démocratique est d'abord un mouvement de libération. Son objectif est de libérer, dans toute la mesure du possible, les hommes de la dictature sociale et économique des possédants. Il est insensé que la concentration du pouvoir, issue de la propriété privée, lui fasse obstacle. Après la politique gouvernementale, le temps de la politique professionnelle. Cette année 2013 aura été, il faut le dire, l'année de tous les dangers pour le CNV. Au cours de sa réunion du 15 janvier 2013, le Conseil de l'Ordre de Paris adopte une motion se prononçant pour la création d'instances ordinales régionales, de l'ordre national et de l'élection de son président au suffrage universel. Il propose en outre la création d'une commission composée de membres du barreau de Paris, de la conférence des bâtonniers, du CNV et d'acteurs de la société civile afin de réfléchir à un projet de réforme du système. Tous les syndicats devant cette volonté de contourner l'institution démocratiquement élue, qui constitue l'espace légitime du débat, en lui substituant une structure fondée sur une représentation bicéphale qui a justement jusqu'ici démontré son efficacité. Il est décidé, lors de l'Assemblée générale du 18 janvier, au cours de laquelle le président sortant Jair Bonnazel est réélu, puisqu'à la différence des autres membres du CND élus pour 3 ans, le président lui est élu pour un an renouvelable chaque fois, chaque composant du CND doit faire à nouveau connaître ses propositions. Et le rapport qui les collationne sera débattu lors de l'AG des 24 et 25. Premier coup de théâtre, à 48 heures de l'AG, Madame Bazouille de Paris, son dauphin et son prédécesseur annoncent la suppression de la participation de leurs barreaux au CND, au motif que le rapport mentionnant l'ensemble des contributions ne mentionnerait pas les dernières propositions de leurs dauphins. Nous prenons aussitôt un communiqué au titre ironique « Pouche-toi de là », dénonçant une telle position qui, inopportune, inexacte, démagogique, sape notre crédibilité à l'égard des justiciables du pouvoir public, complétée d'ailleurs par une motion de l'État syndical, ACE-CNA, FNJ-ASTAF, mettant les points sur les i. Cette décision regrettable et contestable n'entrave en rien le fonctionnement du CNB, qui poursuit naturellement l'ensemble de ses travaux. Concernant la fin de la gouvernance, ce comportement démontre qu'en aucun cas, l'institution nationale ne peut reposer sur la seule représentation ordinale. Le CNB, par sa composition et sa représentativité, est la seule institution légitime à mener la réforme de la gouvernance de la profession, mission qui ne saurait être confiée à une commission externe. Le CNB est résolu à aboutir à une réforme répondant à l'intérêt général et préservant l'unité de la profession. L'AG va prendre acte de cette suspension du gouvernement de Paris. Il va simplement repousser le débat à l'État en donnant mandat à ce niveau-là, au barreau, au bureau, à cette fin. Deuxième coup de théâtre, le 10 juillet, démission surprise du président Jair Bonnazel. Malgré la position très claire prise lors de l'AG de procéder à la réforme de la gouvernance en interne, le président décide unilatéralement de confier la réforme de la gouvernance à une commission ad hoc ne disposant d'aucune légitimité et ne comportant donc à sa composition aucun membre du collège général. Désavoué par son bureau, qui a pris connaissance de cette décision par la publication d'un communiqué commun présent du CNB Patrick Nélior de Paris, il s'est dérobé en démission. L'élection du nouveau président est alors fixée au 6 septembre, la première vice-présidente, Pascale Budelski, assurant l'intérim. Pendant l'été, pression exercée sur les élus du bureau pour qu'ils démissionnent, mais pour se représenter, bien sûr, au motif que leur légitimité serait ainsi réaffirmée avec l'élection du nouveau président, alors qu'ils ont été élus légitimement au mandat de 3 ans. Sur les 8 membres élus du bureau, 5 vont démissionner. Et trois autres font de la résistance. Les deux élus FNJA et les USAF Catherine Blou. Lors de l'AG du 6 septembre, Jean-Marie Burchoux, ancien maire de Paris, que nous avons rencontré au cours d'un conseil syndical du 30 septembre, au cours duquel nous a assuré vouloir travailler avec tous les membres du bureau, non démissionnaires comme démissionnaires réels, s'opposer à un ordre national et ne concevoir le CNB qu'avec ses 2 composantes, ordinale et syndicale. Le bâtonnier de l'Union est élu avec 65 voix sur 76 contre Arnaud Lison, les démissionnaires s'étant représentés, étant réélus, et les non-démissionnaires restant bien évidemment en place. Depuis, le CNB fonctionne lors de Paris et de retour, et l'AG de décembre a prévu à son ordre du jour l'examen, enfin, du fameux rapport sur la gouvernance. Comme dans le traitement de la question de l'accès au droit, le SAF s'est montré fort de propositions et d'actions, tout en œuvrant de l'intérêt de la profession. Nous le redisons avec force, le CNB doit fonctionner sur ses 2 jambes, l'ordinal et la syndicale. Oui, à nous de continuer à jouer une partition au sein du CNB, à l'heure de notre profession est plus que jamais à la croisée des chemins et ne peut pas ne pas s'interroger sur son avenir et ses modes d'exercice. Avec la déjudiciarisation annoncée d'un certain nombre de contentieux, dans un contexte général de libéralisation et de dérégulation d'une part et de crise économique d'autre part, laquelle frappe en priorité les plus démunis dont le sein a vocation d'assurer la défense. C'est pourquoi nous devons être à l'origine de stratégies de défense et de mutualisation productive de nouveaux droits, en recherchant l'utilité publique qui, par exemple, en fonction des situations, peut faire primer le droit au logement sur le droit de propriété. Je cite, « Il nous faut former des avocats qui conçoivent le droit comme un outil au service de la parole des autres et qui refusent les formes d'une application automatique d'un ordre de droit. Des avocats capables de proposer le changement de la jurisprudence si celle-ci n'est pas en cohérence avec les aspirations de telle ou telle composante du mouvement social ou de tel ou tel intérêt personnel équitable. Oui, l'avocat est un organisateur du social, mais doit être aussi un désorganisateur de normes, un constructeur de normes nouvelles, un agitateur d'idées, bref, un révolutionnaire du droit, pour le droit, par le droit. Ces fortes paroles ont été prononcées il y a exactement 20 ans, au 20e congrès de Strasbourg, par le président du Sénat, Tino Kumbach. Tino nous a quittés au cœur de l'été. Il avait 74 ans. Tino, l'avocat camarade, il disait l'avocat camarade, à la fois rouge et expert, qui a tant œuvré pour faire bouger les lignes en matière de droit social, et à qui nous rendons hommage dans notre numéro de l'ordre de l'aide du SNAF. Certes, il y a eu des orages. Il aimait se confronter, mais il savait aussi écouter. Notre colloque de droit social, le 7 décembre à Paris, lui est dédié. Prouver le fait qui fait le droit. Les avocats du SAF ont choisi une fonction sociale plus qu'une carrière. Et nous devons aussi savoir comment nous structurer, développer nos activités pour assurer l'équilibre économique de nos cabinets. Nous aussi, nous devons marcher sur nos deux jambes, la sociale et l'économique. Je ne voudrais pas terminer ce rapport sans dire toute ma gratitude à celles et ceux qui m'ont accompagné cette année. Les membres du bureau, tout d'abord, Isabelle Duguay, Nourra Marat-Loubret, Pierre Boisier, Louis Norelstock, avec une mention particulière à Pascal Talman, qui m'a préparé à cette fonction, et Florian Borg, mon alter ego, qui, je l'espère, sera élu vice-président à l'issue de ce congrès. Les responsables des commissions, et pique dorsale de tout syndicat, Périne Cronier pour l'accès au droit, Nourra Marat-Loubret, la consommation à logement, Céline Benachour et Laurence Ifermann pour la discrimination, Aurélie Lebel et Valérie Grimaud pour la famille, Jean-Marc André pour l'hospitalisation sous contrainte, Emeline Lachat pour l'étranger, Dominique Mauger pour l'international, Bruno Retzor pour la pénale, Maud Becker, Céline Chalut pour la sociale, et Didier Liger pour les recours auprès des autres juridictions. Les élus du conseil syndical, bien sûr, ils sont trop nombreux pour tous les citer tous. Mais c'est par les discussions, les échanges que nous avons ensemble chaque mois que le SAF avance. J'en profite pour dire à celles et ceux qui sont candidats aux élections pour faire partie du prochain conseil syndical qu'il ne s'agit pas simplement de participer, mais de s'impliquer, parce que nous fonctionnons vraiment comme un intellectuel collectif, sur l'expression de notre prédécesseur. Non aux relations verticales. Je suis partisan des relations horizontales qui impliquent autonomie, responsabilité et capacité d'initiative. Très important également, nos élus CNV, à qui nous avons su fonctionner en synergie, alors que l'année était éprouvante au sein de cette institution. Catherine Blanc, membre du bureau, Philippe Chaudon, président de la Commission de Liberté et Droits de l'Homme, Françoise Matt, Commission Texte et Internationale, Marianne Lacru, Commission Formation, Liberté et Droits de l'Homme, Bertrand Couder, commission règles et usages, Franck Hurtré, commission formation. Nos deux élus ordinaux, Myriam Picot, président de la commission accès au droit, et Yves Tamé, vice-présidente, et nos deux personnalités qualifiées, Odile Mizinga et Sylvain Rouillet. Un grand merci également à ceux qui nous représentent dans les organismes techniques de la profession, démontrant par la même l'implication du cercle dans la profession. Nos 16 élus de la CNDS, dont Serge Rosenblit, le vice-président, Jean-Louis Bourri, SAFE, aux commissions paritaires, Georges Mouvillet et Guy Dupin de la CREPA, Sylvain Roumier et Hélène Chabu de la CPNE, au FIFPL, Vincent Vieille et Sylvain Roumier, qui en préside la commission juridique, Nicolas Gangloff, qui siège au bureau de l'ENADEP. Il me faut aussi mentionner notre représentant à l'AED, notre syndicat européen, Pascal Talman, Didier Guichet, Laurence Franck. L'AED organise notamment, chaque année, la journée de l'avocat menacé. En 2014, soyez nombreux le 24 janvier, devant l'ambassade de Colombie. Je ne saurais bien sûr oublier mon associé Martine, mon collaborateur Nicolas et notre secrétaire Christelle, qui font tourner le cabinet en mon absence. Enfin, last but not least, nos deux secrétaires du siège, toujours présentes et qui ne comptent pas leurs heures, Marie-Hélène et Catherine, notre tour de contrôle, dont je ne pourrais pas me passer. À vous toutes et à vous tous pour être présents. Vous êtes le SAF en mouvement. Mais il faut aussi connaître l'histoire du SAF. Et je vous invite à commander auprès de Catherine les annales du SAF en deux volumes que Claude Michel, qui est ici présent, pourra vous dédicacer. Claude Michel, l'un des fondateurs du SAF et son deuxième président. Je finirai par cette citation de Bertolt Brecht. Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu.